L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour cette émission sur l'Afrique dans tous ses états, Marie-Claude Siakeza continue à chercher et à trouver des pépites issues de ce vaste continent. Des pépites montpelliéraines, des pépites de passage à Montpellier que Marie-Claude sait capter. La pépite d'aujourd'hui se prénomme Pascaline, Pascaline Koulibaly-Lingani. Bonjour Pascaline Koulibaly-Lingani.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Marie-Claude.
Et bonjour, Guylaine. Et bonjour, Pascaline.
Et voilà. Bonjour. Donc, avec vous, Pascaline, nous allons donc faire un pont entre Montpellier et le Burkina Faso. C'est un hasard, Marie-Claude, que ce soit le Burkina cette fois-ci. c'est pas de hasard, vous allez me dire.
C'est pas vraiment un hasard et je tiens tout spécialement à remercier le docteur Pascaline Lingani Koulibaly parce qu'elle part demain, elle repart demain au pays, elle vient de faire une mission, elle va nous expliquer, d'ailleurs je sais pas trop, à part de savoir qu'elle est du Burkina et de venir d'apprendre qu'elle est de Bobo-Dioulasso, ma ville, et de savoir que c'est une personne très intéressante et sympathique. Je ne savais pas trop d'elle. Et donc, je tiens spécialement à la remercier. Et ce n'est pas vraiment un hasard, puisque étant quand même fervente amoureuse du Burkina depuis 23 ans, qui est un peu comme ma deuxième patrie, évidemment, je circule pas mal dans les milieux burkinabés et j'ai la chance de rencontrer des gens que je peux persuader de venir témoigner, puisque notre mission, n'est-ce pas, ce que nous s'était donné Guylaine,
absolument,
c'était de faire découvrir toutes les facettes et toutes les richesses de ce continent. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez une question à poser en premier.
Moi, j'aimerais bien entendre Pascaline maintenant, qui nous parle un peu voilà, de son parcours. On sait qu'elle est sociologue de l'environnement, que vous êtes, Pascaline, sociologue de l'environnement à l'INERA CNRST. Mais il va falloir nous en dire un peu plus.
Okay. Merci. Je suis, comme je l'ai dit, Pascaline Lingani, épouse Koulibaly. Je suis native de la ville de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, où j'ai fréquenté l'école primaire, aussi le secondaire. Et c'est en 87 que j'ai obtenu mon bac. Et baccalauréat, c'est A4. Et là, je suis arrivée à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, pour mes études universitaires.
Alors, je voulais simplement interrompre Pascaline pour dire que chapeau d'avoir eu le bac, puisque donc nous aidons entre autres une association qui favorise la scolarisation des filles. Alors, je dois dire qu'au Burkina, la scolarisation des filles, n'est-ce pas, Pascaline, est quand même très compliquée, qu'elle n'est pas très fréquente, et qu'ensuite la réussite dans les systèmes traditionnels africains, burkinabés en tout cas, la réussite des filles est encore plus rare. Alors, chapeau. Chapeau déjà pour ce bac et pour pouvoir arriver jusqu'à la capitale. Voilà, et merci de nous témoigner de ça.
Ok, merci. Et lorsque je suis arrivée à l'université de Ouagadougou, et j'ai obtenu ma maîtrise en sociologie en 1992. Et après, 2 ans après, j'ai été recrutée par le CNRST comme sociologue. Et je suis restée là-bas, j'ai travaillé. Et heureusement pour moi, en 2007, j'ai obtenu une bourse ASDI pour aller et faire les études et d'abord au Ghana pour le master et puis en Suède pour le PhD. Donc l'ASDI, c'est l'Agence suédoise de développement international que vous connaissez sans doute. Cette agence est responsable de l'aide officielle au développement pour les pays en développement.
Il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est vrai que les études s'arrêtent au niveau de la maîtrise et c'est vrai que si on veut vraiment et si on a envie de faire quelque chose de consistant, il faut avoir le courage de s'expatrier et en même temps la finance quoi. Donc d'obtenir une bourse, ça veut dire déjà que voilà, c'était une étudiante très reconnue et très motivée.
Et cette bourse c'était dans le cadre de la coopération entre la Suède et puis le Burkina Faso. Donc je suis allée faire le master à l'université University of Cape Coast au Ghana J'ai fait un master.
Donc en anglais.
En anglais.
Chapeau.
C'était pas facile, je vous assure. Donc après le master à l'université Pos au Ghana, je suis allée ensuite en Suède. En Suède pour le PhD. Donc c'est en 2011 que j'ai obtenu mon PhD à Swedish University of Agricultural Sciences. Qui est...
Parce que le climat suédois, déjà, moi, je suis que du sud de la France. C'est compliqué. Alors, c'est franchement, se retrouver là-bas, ça ne doit pas être facile du tout.
Tout à fait.
Est-ce que ce sont justement de bons souvenirs? Comment est-ce que vous les qualifieriez, ce moment-là?
Oui, il y a eu de bons souvenirs, comme...
Quand même, il y en a eu.
Des souvenirs qui ne sont pas du tout intéressants. Oui, bon, les bons souvenirs, c'est lorsque... Bon, j'arrivais à rédiger un article, dans le processus, j'arrivais à le soumettre pour publication et je recevais une lettre d'acceptation de l'article en question. Mmh. Là, vraiment, c'était des bons souvenirs. Mmh.
Alors, vous aviez une spécialisation, j'imagine, à ce niveau-là d'études pour aller en Suède?
Une spécialisation.
Dans l'environnement, vous étiez déjà dans la filière environnement.
Il faut
mais
que
est-ce
je
que vous
précise.
Aviez un sujet d'étude particulier?
Oui. En fait, c'est à l'INERA, je travaille dans un département qu'on appelle département des productions forestières, qui est devenu par la suite département environnement et forêt. Donc, du coup, les études que je devais entreprendre devrait être vraiment dans ce domaine. Et là, je suis allée faire un PhD en aménagement des forêts. Donc, sinon, je suis sociologue, mais là, le PhD est en aménagement des forêts.
D'accord. Donc, c'était votre objet d'étude en Suède?
C'était mon objet d'étude en Suède. Et j'ai travaillé sur le thème qui portait sur l'évaluation du programme d'aménagement des forêts au Burkina Faso. Vous savez qu'au Burkina Faso, et avec l'appui de la FAO, il y a eu un grand programme d'aménagement des forêts dans les années 83. Mon étude et ma thèse portaient sur l'évaluation de ce grand programme. Donc, je me suis intéressée à savoir comment les populations rurales pouvaient accéder. Quels sont les déterminants pour leur accès aux ressources de la forêt? Je me suis intéressée aussi à connaître, étudier la participation des populations à l'aménagement de ces forêts. Mm-hmm. Quelles peuvent être les contraintes qui freinent leur participation?
Mm-hmm. Mais alors, c'était de nouvelles forêts, de nouvelles plantations, des nouvelles, espèces d'arbres? Ou bien comment
Non, en fait, c'est des forêts, des plantations naturelles conservées qui constituent les forêts. Parce qu'au Burkina Faso, la notion de forêt, ce n'est pas la même notion qu'en Europe ici.
Ça n'a rien à voir avec les tropiques
aussi. Voilà, tout à fait.
C'est-à-dire, préciser.
Bon, je précise parce que quand vous allez au Burkina, vous voyez une forêt, on vous dit que c'est là la forêt. Vous allez être surpris parce que ça n'a rien à voir avec les forêts qu'on rencontre habituellement en Europe ou dans les pays côtiers.
Ce ne sont pas les mêmes arbres?
C'est des plantations denses, ce ne sont pas les mêmes espèces. Au Burkina Faso, par exemple, les espèces dominantes, c'est le néré, le karité. On a d'autres espèces, mais celle qui domine, c'est vraiment le néré, le karité.
Et ce sont des espèces qui sont utilisées par les populations ou qui sont juste ornementales ou bénéfiques pour la planète?
Ces espèces sont utilisées pour la population, donc il y a plusieurs usages. C'est utilisé dans l'alimentation. Ce sont des espèces qui sont utilisées dans la pharmacopée pour les soins. Ce sont des espèces aussi qui sont commercialisées. Si vous prenez le karité, par exemple, vous voyez que le karité même est exporté.
C'est bon pour la peau, les
c'est
cheveux.
Bon.
Voilà, utilisé par des grandes marques d'ailleurs, utilisé depuis que les femmes ont su se plier aux règles d'hygiène, etc. C'est des grandes marques qui utilisent le beurre de karité.
Le beurre de karité, tout à fait.
Burkinabé,
et c'est même utilisé dans la chocolaterie aussi, le beurre de karité. Voilà.
Ça se mange et ça s'applique sur la peau.
Ça s'applique sur la peau. Et bon, même pour se soigner, les gens utilisent ça aussi pour les problèmes de soins, de maladie.
Voilà. De peau, oui.
De
peau.
De
carité. Oui. Et même, j'étais toujours étonnée quand, par exemple, les gens, en période de sèche, là, quand il y a la poussière, les gens s'en mettent même dans le nez, souvent.
Tout à fait. Hein, tout à
pour,
fait.
pour protéger.
Empêcher la poussière de pénétrer. Ouais, dans les
comme quoi, avec des moyens naturels, on peut quand même vraiment être confortable quoi,
tout
dans
à
sa
fait.
Vie. Oui. Et donc, moi, ce que je trouve extraordinaire, justement, et quand Pascaline parle de forêt, effectivement, chez eux, il y a quelque chose quand même qui est sacré, ce sont les arbres en général.
Oui.
Et je dois dire que vous êtes vraiment des... Moi, je trouve que vous êtes des pionniers. Et peut-être parce que, justement, vous êtes un pays sahélien et que vous savez le prix, justement, de la végétation et que vous avez des traditions anciennes. Et je voulais simplement mentionner, on l'a déjà dit, mais le redire un peu, Yacouba Savadogo. Qui a réutilisé le zaï pour planter cette forêt au nord du Burkina et qui quand même vient d'obtenir le prix Nobel alternatif. C'est pas n'importe quoi et c'est
tout
un Burkinabé. Yes.
Le petit moment cocorico. Effectivement, la forêt aussi est utilisée pour l'usage culturel, socioculturel. Je ne l'ai pas dit. Ben, au niveau des forêts, il y a des espaces qui sont réservés, qui sont appelés espaces sacrés, forêts sacrées. Où les populations s'y rendent pour faire des rites, des sacrifices et autres.
D'accord. Dans quel type de pratique religieuse
les pratiques religieuses animistes.
Animistes,
traditionnelles, vraiment. Et ça existe toujours, ces espaces sacrés.
Oui, et puis il y a la notion quand même que l'arbre quelque part, est un individu, un genre, un être, enfin, à qui on s'adresse, à qui on demande pardon si on le sacrifie, et à qui on peut implorer, qui peut aider justement dans les réalisations. Et moi, je trouve intéressant, parce que ces pratiques-là, elles rejoignent actuellement la découverte des scientifiques qui commencent à dire qu'effectivement, il y a entre les arbres un langage, des échanges, une solidarité. Enfin, on commence à envisager la végétation et l'arbre en particulier comme un être vivant. Alors, ça a pu faire rire il y a quelques années, peut-être, mais voilà, et que quelque part, vous, ça, c'est inscrit dans votre connaissance traditionnelle.
Oui, tout à fait. Et l'arbre est sacré, on utilise, on considère l'arbre comme étant un être vivant,
tout à fait.
Souvent, à qui on peut s'adresser pour recevoir certains dons bénéfiques dans la
même
vie.
Même après votre
culturelle.
Passage en Suède, dans les sciences, vous avez toujours cette pensée-là?
Oui, bon, je fais avec, puisque chez les populations, c'est important. Donc, on va avec tout ce qui est important chez les populations rurales. Ça fait partie de leur quotidien. Ça fait partie de leur vie. Donc, il faut prendre ça en compte. Même dans les activités de recherche, il faut tenir compte de ces considérations socioculturelles.
Et c'est là où les sociologues sont très importants,
tout
n'est-ce pas
fait.
Ou les anthropologues, comme on a vu récemment.
Ben
voilà,
fait.
Vous avez vraiment votre rôle à jouer. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de se rendre compte que au Burkina Faso, c'est quelque chose qui est inscrit quand même depuis un certain temps. Voilà, que l'humain et l'arbre, ils ont quelque chose à faire ensemble.
Tout
et que
fait.
C'est important que ce soit géré par des gens qui ont des connaissances scientifiques à ce niveau-là. Au niveau relationnel.
Tout à fait.
Auditeurs, auditrices FM+, vous l'avez compris, nous sommes là parce que partis au Burkina Faso, dans les immenses forêts burkinabées. Et Marie-Claude, vous avez apporté un morceau musical directement du Burkina.
Non, ce n'est pas directement du Burkina,
c'est pas
pardon.
Du Burkina, vous avez...
Non, parce que...
Vous avez choisi
d'autres
cultures.
Ce n'est pas du Burkina, mais j'ai voulu choisir des femmes aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir une femme là, et puis pas n'importe quelle femme. Et donc, j'ai choisi un morceau de Kumba Gaolo, qui est du Sénégal, qui est sénégalaise, et qui est griotte, donc, et des griots, il y en a aussi au Burkina, bien sûr, ce sont des gens qui transportent la parole et l'honneur des gens, etc., et les légendes. Et donc, un morceau qui a été, en son temps, a été un tube qui s'appelle Pata Pata.
Sacou madjan may na di man ma letter bu ndaw xajuma ci poste ken duma ko man ñak lay bañ ak kuma jani kuma ni ho mané kané dama bu ma saf bëgguma pobar duma ko nangu hey
Vous l'avez compris, sur FM Plus 91 FM à Montpellier, nous sommes en Afrique avec Patatata. Un superbe morceau musical choisi par Marie-Claude Sia et ça nous a permis de faire une petite pause dansante. Avec vous, Pascaline Koulibaly-Lingani, qui est l'invitée de Marie-Claude pour cette émission L'Afrique dans tous ses états. Alors, nous étions en train de dérouler votre parcours scolaire, puis universitaire. Nous en étions lorsque vous étiez en Suède, dans les années 93-94, nous avons fait une petite aparté sur la vie des forêts au Burkina. Alors, la Suède, finalement, vous a permis de préciser votre domaine de recherche sur l'environnement des forêts dans ce pays du Burkina Faso. Oui. Vous êtes allé au-delà de ce que vous pensiez y trouver ?
Non, vraiment. Parce que j'étais intéressée à connaître quels sont les facteurs qui peuvent freiner l'accès des populations. Si on prend les populations, on divise par la population, on regarde l'aspect genre, par exemple, comment les femmes, les hommes accèdent aux ressources forestières. Et à l'intérieur des femmes encore, il faut voir. Une femme qui est autochtone et une femme qui est migrante, elle n'a pas le même accès aux ressources forestières. Parce que au Burkina Faso, peut-être que vous ne le savez pas, si tu as la propriété sur une terre, où on te cède une terre pour exploiter, la propriété des arbres sur cette terre reste toujours une propriété conservée par le propriétaire terrien. Autrement dit, bon, si tu demandes une terre pour exploiter, l'arbre qui s'y trouve ne t'appartient pas. Ça appartient à la personne qui est propriétaire de cette terre.
Donc, mais est-ce que le propriétaire peut transmettre cette propriété à quelqu'un d'autre ?
Quelqu'un d'autre, ça pourrait être, c'est que cette personne ne pourrait être qu'une personne de sa famille. Voilà, puisque quand tu rentres aussi à l'intérieur d'une famille, l'exploitation aussi des ressources est tout autre. Il y a une personne qui a le pouvoir des décisions sur ses ressources. Et il y a d'autres, cette personne qui n'utilise que ses ressources, mais ils ne peuvent pas décider. Ils ne peuvent rien décider par rapport à l'usage, la destination de ces ressources.
Alors, est-ce que vous êtes en train de dire, Pascaline, qu'il y a quelque chose de cloisonné, finalement, d'immuable dans ce fonctionnement?
Oui, bon, cloisonné, je ne sais pas.
Immuable.
Cloisonné, peut-être pour un occidental.
Immuable, je veux dire, c'est figé. C'est-à-dire que ce sera transmis de famille en famille, il n'y aura pas de possibilité d'expansion
Tout à fait. Tout à fait. Pour ce qui concerne la gestion de la terre, ça se transmet au Burkina de famille à famille jusque-là. Et quand bien même qu'il y ait une loi qui dit que la terre au Burkina appartient à l'État, on reconnaît aussi cette propriété traditionnelle des populations locales, de ces terres-là. Parce qu'il y a une dualité au Burkina et on dit que la terre appartient à l'État, mais
tout à fait.
Les populations locales sont là, qui ont le droit, qui ont droit, des droits reconnus sur ces terres-là.
Et ça crée souvent des conflits, des procès. Enfin, c'est vrai qu'actuellement, comme dans tous les pays du monde, les cités, les villes s'étendent. À ce moment-là, on gagne sur des terrains. Après, il y a des histoires, savoir à qui ça appartient, quelle est la famille, il faut aller retrouver. Alors, en même temps, c'est l'État et ça crée beaucoup de situations. Justement, cette dualité un peu entre le côté, les nouvelles législation de qui ont des quelques décennies et les traditions qui restent quand même très vivaces dans votre pays
tout
et ce qui crée aussi la force du pays.
Oui.
Donc on voit bien comment c'est un petit peu compliqué tout
ça. Il y
a
à la fois un écart et une force.
Voilà.
Oui.
Alors Pascaline, quand vous revenez de Suède, parce que vous en revenez quand même, vous n'y restez pas.
Je ne sais pas pourquoi, franchement.
Non, heureusement pour moi, c'était un programme sandwich. Donc je partais, je restais là-bas 6 mois, je repartais au pays pour un temps. Et c'est pas facile.
Non, c'est
que
pas facile.
J'ai commencé ces études de doctorat. Lorsque j'avais déjà fondé une famille et bon, j'ai des enfants, j'ai un époux, donc c'est pas évident. Et les enfants étaient à bas âge. C'est pas facile.
Je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces femmes, j'en connais quand même quelques-unes qui sont passées par Montpellier, qui laissent leurs enfants, quand on sait quand même la maternité comme c'est important, et elles laissent toute la famille, enfants, époux, etc. Et les époux quand même qui acceptent aussi.
Tout à fait.
Comme quoi, la vision qu'on peut avoir de la femme africaine, des fois elle est un petit peu déformée malgré tout. Et je vous connais un certain nombre, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour vous, parce que, et en plus vous arrivez au bout de votre cursus, au prix de sacrifices, mais voilà. Et avec votre sourire. Vous avez toujours la banane, là, le sourire éclatant. Donc, félicitations aux femmes. Aujourd'hui, on est avec des femmes, est avec une femme. Félicitations aux femmes.
Alors, vous rentrez de Suède, vous rentrez dans la capitale du Burkina.
Oui.
Et à ce moment-là, vous avez rapidement un poste au CNRST.
Oui, parce que je suis partie en tant que...
Déjà,
j'avais ce poste en partant. Et c'est grâce même au CNRST que j'ai pu avoir cette bourse pour me former. C'est ça. Donc, quand je suis revenue, j'ai juste repris service après les études.
Donc, aujourd'hui, en 2018, vous continuez à travailler sur l'impact de la forêt dans la société, les liens entre les Burkinabés qui utilisent la forêt. Quelle est aujourd'hui votre préoccupation?
Oui, je m'intéresse à beaucoup de choses présentement. Et les sujets que j'étudie présentement ont trait essentiellement à la décentralisation, des ressources forestières. Je m'intéresse beaucoup aussi à l'aspect genre dans tout ce que je fais.
L'aspect genre.
Genre, l'aspect
genre, des arbres.
Je veux dire les relations hommes-femmes.
C'est ça, d'accord.
Mais le genre, je vois au-delà.
En lien avec les forêts ou pas? Non, pas en lien avec les forêts.
En relation avec les ressources forestières. Parce que les relations genre, le genre, moi, je ne vois pas seulement au genre les relations entre l'homme et la femme. Mais
tout à fait.
C'est les relations entre groupes favorisés et groupes défavorisés.
Exactement.
Et si vous prenez le milieu rural, par exemple, et parlant de gestion des ressources naturelles même, ou bien l'accès aux ressources naturelles, il y a des groupes de personnes qui ont un accès limité à ces ressources. Ces groupes de personnes, c'est qui? C'est généralement les migrants. Quand vous prenez les migrants par rapport aux autochtones à qui appartiennent les terres des localités rurales.
Ces migrants proviennent de quel pays?
Ces migrants, on les appelle des migrants, mais c'est en fait des gens qui se sont déplacés, qui ont quitté les lieux où les conditions pluviométriques, climatiques ne sont pas favorables.
Ouais.
Vous prenez le cas du Burkina. Et les gens qui quittent la région nord, la région centre par exemple, où les conditions pluviométriques ne sont pas favorables, partent s'installer dans certaines régions où vraiment la pluviométrie est assez intéressante. Et c'est notamment une région dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est les provinces de la Sicile et puis du Ziro, où j'ai beaucoup travaillé, où on retrouve des gens qui ont quitté les localités où il ne pleut pas assez pour venir s'installer là-bas, cultiver la terre. Et ces gens ont un accès souvent limité à ces ressources naturelles parce qu'ils ne sont pas propriétaires des ressources dans ces localités où ils se sont installés.
Oui, d'ailleurs, pour les personnes qui connaissent pas et qui iraient au Burkina, je dois dire que quand l'avion commence à descendre pour aller se poser sur la piste à Ouagadougou, c'est assez terrible la sécheresse, enfin, ce qu'on a à voir, ce que ça donne à voir, c'est assez terrible. Et moi aussi, ce que je peux témoigner, c'est qu'au fil des années, on voit cette sécheresse, on voit ce désert gagner, y compris la ville de Ouagadougou. Donc, quand Pascaline parle effectivement du fait qu'il y a des migrations économiques, parce que vraiment il y a la détresse de la sécheresse, c'est vrai que voilà, et que ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et on a beaucoup vu ça. Alors maintenant, il y a des frontières. Les colons ont créé des frontières, mais on a toujours vu des migrations de travailleurs qui allaient toujours là où, j'allais dire, l'herbe est plus verte. Oui, quelque part, il y a, comme dit, il y a l'humidité, il y a l'eau, il y a ce qu'il faut pour pouvoir cultiver, quoi.
Donc là, ce qu'on peut constater, en effet, ce sont des migrations d'ordre climatique à l'intérieur du pays.
Tout à fait.
Et non pas, alors forcément, le climatique va, comment dire, avoir une influence sur l'économie. Ces gens-là, s'ils restent là-haut, dans le nord, ils ont des difficultés pour se nourrir, pour travailler, probablement. Et donc, ils espèrent, en arrivant là, avoir une meilleure
condition, meilleure, oui, tout à fait. Dans le nord, c'est essentiellement des éleveurs qui se déplacent avec leurs animaux.
Voilà, c'est ça.
Parce que au niveau du sud, le sud-ouest, les conditions sont meilleures pour les animaux. Donc, généralement, au Burkina, et les animaux vivent surtout du pâturage naturel. Donc,
tout à fait.
Dans ces localités, il y a assez de disponibilité en pâturage.
Nous n'avons pas tout dit, Pascaline, sur l'environnement, la décentralisation des forêts, le genre de relation avec les ressources forestières. Nous allons y revenir tout à fait dans une prochaine émission.
Avec impatience.
Merci, Pascaline Koulibaly-Lengani. À très bientôt.
Et au revoir à tous.
À bientôt, Marie-Claude.
À très bientôt, Guylaine.
À bientôt. Merci.